Merci d'être avec nous sur RFI. Il est maintenant pile 16h temps universel, 17h ici à Paris.
Charlotte Idrac.
Bonjour. Dans cette édition des blocages dans l'accord de trêve à Gaza, Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'être responsables de retard dans sa mise en œuvre. Pendant ce temps-là, des milliers de Palestiniens sont bloqués dans leur chemin du retour vers le nord du territoire. C'est un appel direct à Kigali. Le patron de l'ONU demande aux forces rwandaises de quitter le territoire de République démocratique du Congo et de cesser de soutenir le groupe armé du M23 qui est maintenant aux portes de Goma. Élection sans suspense en Biélorussie. Le président Alexandre Loukachenko vise un 7e mandat. En exil, la chef de file de l'opposition dénonce une farce. En Corée du Sud, le président déchu Yoon Suk-yeol, inculpé pour insurrection après sa tentative d'imposer la loi martiale. Et puis le meilleur, c'est Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, vainqueur de l'Open d'Australie de tennis, sans pitié face à l'Allemand Alexander Zverev. Une foule est amassée donc dans la bande de Gaza, près du corridor de Netzarim, cette bande de terre militarisée par Israël qui coupe le territoire en deux. Des milliers de déplacés qui tentaient de rentrer vers le nord sont donc bloqués dans cette zone. Conséquence d'accroc entre Israël et le Hamas sur l'accord de trêve. Les deux parties s'accusent de violation, Michel Paul.
Du point de vue israélien, la violation de l'accord de trêve par le Hamas est double. En premier lieu, Israël considère que l'otage civil, Arbel Yehoud, aurait dû être libéré hier, selon l'ordre de priorité stipulé par l'accord. D'abord les femmes civiles et ensuite seulement les soldats. La libération des 4 militaires hier a provoqué la remise en liberté d'un nombre plus important de détenus palestiniens et laisse planer des doutes sur le sort de 2 femmes civiles israéliennes toujours retenues à Gaza. Par ailleurs, toujours au terme de l'accord, le Hamas aurait dû fournir jusqu'à hier soir à minuit une liste détaillée des otages indiquant clairement s'ils sont morts ou bien toujours vivants. Selon un communiqué du bureau du Premier ministre, Israël attend maintenant des garanties sur la libération d'Arbel Yehoud et dément avoir reçu des preuves de vie de la jeune otage. L'armée israélienne ne permet pas à ce stade le retour des Gazaouis déplacés vers le nord de l'enclave palestinienne et on indique également qu'Israël a demandé l'intervention des médiateurs et aussi directement du président américain Donald Trump. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et alors que cet accord de trêve entre Israël et le Hamas, on le voit, est fragile, des réactions en chaîne après la proposition de Donald Trump. Le président américain a évoqué un déplacement des Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Il y a quelques minutes, Amman a réaffirmé officiellement son rejet d'un déplacement forcé des Palestiniens. Le Hamas, sans surprise, avait déjà critiqué cette idée, jugée en revanche excellente, je cite, par des responsables d'extrême droite en Israël. Israël qui n'a pas quitté le sud du Liban comme le prévoyait au départ l'accord de cessez-le-feu conclu fin novembre avec le Hezbollah. La date limite c'était ce dimanche en principe. Mais l'État hébreu avait annoncé un report et malgré l'interdiction de l'armée israélienne, des centaines d'habitants ont tenté de revenir dans leur village aujourd'hui près de la frontière. Les forces israéliennes ont ouvert le feu. Le dernier bilan du ministère libanais de la Santé est d'au moins 15 morts. La Colombie interdit l'entrée d'avions militaires américains transportant des migrants expulsés des États-Unis, annonce du président Gustavo Petro, alors que l'administration Trump a lancé ses opérations d'expulsion massive de clandestins. Un migrant n'est pas un criminel, écrit le président Petro. Il ajoute que la Colombie n'acceptera que des vols civils et qui traite les migrants avec dignité. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation dans l'Est de la RDC. Elle a été avancée de 24 heures face à l'escalade des combats très intenses entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté, le groupe armé du M23 soutenu par des militaires rwandais de l'autre. Le secrétaire général de l'ONU, via son porte-parole, a clairement appelé Kigali à se retirer du territoire de RDC et à cesser de soutenir le M23 qui est donc aux portes de Goma. La ville est encerclée. Des déplacés qui vivent dans des camps alentours ont afflué vers Goma sans savoir où aller. Les habitants ont la peur au ventre, comme le raconte cet homme, joint par Guillaume Thibault.
C'est la panique générale. Les boutiques sont en train d'être fracassées. Ça crée la terreur. Toutes les boutiques sont fermées. Les déplacés qui étaient dans leur camp sont tous déversés vers Goma sans aucune destination. Alors, voilà tout ça, ça nous renferme dans nos maisons, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se ravitailler en nourriture ni en eau, il n'y a pas d'électricité, on est dans les noirs, il n'y a pas du courant. C'est grave, en tout cas c'est grave, c'est tout ce que je trouve à dire en général. On ne sait pas vraiment quoi faire. Moi, ce que j'attends personnellement, j'attends qu'il y ait quand même des négociations, que tout ça finisse. Vous pouvez imaginer une vie sans courant, sans eau, sans réseau, c'est quasiment invivable. Tout ce que moi je veux, c'est qu'il y ait un communiqué peut-être qui va rassurer la population de Gouma par rapport à la situation, pour que tout ça finisse. C'est tout ce que nous avons besoin.
Les habitants de Gouma terrorisés, témoignage d'un habitant donc joint par Guillaume Thibault. Au moins un câble sous-marin endommagé encore ce dimanche entre la Suède et la Lettonie en mer Baltique, annonce du Premier ministre suédois. Et cela fait suite à une série d'incidents sur des câbles dans la zone et des soupçons de sabotage orchestrés par la Russie, selon des responsables occidentaux. En Biélorussie, Alexandre Loukachenko en route pour un septième mandat en ce jour de présidentiel, l'autocrate assumé au pouvoir depuis 30 ans, depuis 1994. Dans ce pays qu'il qualifie de démocratie brutale. Le résultat du scrutin ne fait pas de doute. Après la répression de la contestation lors du dernier scrutin il y a 5 ans, l'opposition a été réduite au silence ou alors est en exil, comme sa chef de file Svetlana Tikhanovskaya qui s'est exprimée depuis Varsovie.
Ce qui se passe aujourd'hui en Biélorussie est une farce et une mascarade. Il ne s'agit pas d'une élection, mais d'une opération électorale spéciale visant à maintenir Loukachenko au pouvoir.
La diplomatie allemande estime dans un communiqué que les électeurs en Biélorussie n'ont pas le choix. En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol reste en prison. Le président suspendu après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. La justice l'a officiellement inculpé pour insurrection, c'est Liu Fioretti.
Un président arrêté pour insurrection, c'est une première en Corée du Sud. Après avoir déjà été arrêté temporairement le 15 janvier pour une enquête approfondie sur son rôle dans le déclenchement de la loi martiale, les procureurs ont jugé que les preuves réunies étaient suffisantes à l'inculper. Une décision qui vient 2 jours avant la fin de sa période de détention provisoire, que les juges n'ont pas souhaité étendre. Les procureurs expliquent leur décision par leur crainte que le président ne détruise des preuves s'il était relâché. Même si Yoon Suk-yeol a refusé de répondre aux différents interrogatoires, les procureurs ont entamé les poursuites. Le président Yoon Suk-yeol, déjà suspendu de ses fonctions, sera jugé pour insurrection en plus de son procès en destitution qui doit se conclure le 4 février à la Cour constitutionnelle. En Corée du Sud, le crime d'insurrection contre l'État est passible de la peine de mort, mais il y a peu de chances que cette sanction soit appliquée. La dernière exécution date de 1997. C'est Lio Fioretti, Séoul, RFI.
C'est un iceberg XXXXL, le plus grand du monde, qui est en ce moment en train de dériver dans le sud de l'océan Atlantique. Il est baptisé A23A d'une longueur de 80 km. Et des scientifiques du monde entier le traquent, cet iceberg, parce qu'il risque de percuter un territoire britannique en Géorgie du Sud. Stéphanie Schuller.
Si la Géorgie du Sud ne compte pas plus qu'une centaine d'habitants, principalement des militaires et des scientifiques, elle abrite en revanche des centaines de milliers de manchots et des millions d'otaries qui choisissent ce territoire britannique d'outre-mer pour se reproduire durant l'été austral. Mais un véritable colosse de glace risque de bouleverser ce haut lieu de biodiversité. L'iceberg A23A n'est plus qu'à 280 km et pourrait arriver d'ici 4 semaines. S'il s'échoue avec sa superficie ici de 3500 km² contre la Géorgie du Sud, il bloquera l'accès facile à l'eau pour les manchots et les otaries qui seront alors dans l'incapacité de nourrir leur progéniture. La 23A s'est détachée de l'Antarctique en 1986. Après être resté bloqué pendant plus de 30 ans, il a commencé son trajet vers le nord. Contrairement à d'autres icebergs, cet immense plateau de glace ne semble pas se fragmenter en plusieurs morceaux. Ce genre d'événement risque de se multiplier dans l'avenir parce que le réchauffement climatique rend la calotte glaciaire de l'Antarctique de plus en plus instable.
Et puis ce doublé pour terminer de Yannick Sinner, l'Italien numéro 1 mondial, garde son titre de l'Open d'Australie de tennis. Il n'a pas laissé beaucoup de marge de manœuvre à son adversaire, l'Allemand Alexander Zverev. Victoire 6-3, 7-6, 6-3. Le sport encore est la fin d'une folle semaine de NBA et de Wemby Mania à Paris. On en parle dans Mondial Sport tout de suite avec Hugo Moissonnier.